Léa,
Clément,
Maïli,
Martin,
Kauta,
Noan,
Joyce,
Iman,
Nil, Léonce,
Jeanne.
Making Waves.
Sonneau Maujat, Avignon.
Présente.
À la jeunesse,
les micros.
Au Bacharatan, Mimirajan, Avignon.
Les micros connaissent l'Ishabet.
Je ne m'abaisse pas aux marches de ton palais.
La Asgharu Amama Ballati A'tabik.
Bonjour à toutes et à tous. Les mots que vous venez d'entendre sont ceux de Mahmoud Darwish, écrivain et poète palestinien, pour qui l'art fut un moyen de briser les murs, de défaire l'enfermement, de faire tomber les frontières. Frontières, un mot qui divise, mais un mot qu'on entend tous les jours. Aux infos, à la télé, à la radio, dans la rue, quand on parle de frontières, aujourd'hui on pense à l'Ukraine, à Gaza, à l'Amérique de Trump, mais aussi à l'école, à la rue, à nos papiers d'identité. Quelles sont les frontières aujourd'hui qui nous travaillent le plus ? Celles qui sont entre nos pays, celles qui sont entre nos corps ou celles qui sont entre nos mots ? Et si la vraie frontière, c'était ce qui empêchait d'écouter, de circuler, de se reconnaître chez l'autre ? Les murs sont visibles, mais d'autres sont intimes, symboliques, quotidiens. Comment franchir sans s'effacer ? Comment ouvrir sans dominer ? Et surtout, qui a le droit de passer et qui reste bloqué de l'autre côté ? Dans le dictionnaire, le mot « frontière » vient du vieux français utilisé pour parler du mot du front d'une armée. Pardon. Une ligne de tension, une zone de contact et de danger. Ce n'est pas seulement une limite géographique, c'est un lieu d'affrontement, de surveillance et parfois de mort. Alors de quelle frontière parle-t-on quand on dit ouvrir, accueillir, refuser ? Et à l'intérieur de nous, qu'avons-nous accepté de laisser se refermer ? Ce sera le sujet de notre quatrième émission. Nous sommes au Festival d'Avignon, en direct du Cloître Saint-Louis. On a voulu apporter un regard beaucoup plus humain, plus personnel et plus artistique sur la notion de frontière. Pour en parler avec nous, nous recevons dans cette émission Milo Rao, dramaturge suisse, et Kubra Academy, artiste peintre afghane. Je m'appelle Léa, je suis accompagnée de Joyce, Noan, Iman, Maïli. Vous entendrez tout à l'heure une chronique de Kautar, et à la réalisation, Jade et Clément. Merci à vous d'être là.
Bonjour.
Bienvenue à vous pour un nouveau numéro d'À la jeunesse, les micros. Quand on parle de frontières, on pense surtout à des lignes, des segments tracés sur une carte. Au-delà de ça, les frontières peuvent être multiples. J'aimerais vous demander, chers amis, qu'est-ce que le mot frontière vous évoque ? Noan.
Pour moi, c'est ne pas pouvoir engager un dialogue en profondeur avec quelqu'un. L'impossibilité de parler pleinement dans une langue étrangère, c'est comme si on se réduisait à des versions simplifiées de nous-mêmes. En fait, entre ce qu'on ressent et ce qu'on peut transmettre, il y a une frontière immense. Et on en parlait hier avec la musicienne Naïsam Jalal, elle nous disait qu'on ne dit vraiment « je t'aime » que dans sa langue natale, et je suis plutôt de cet avis-là.
Est-ce que, Iman, toi aussi, c'est un rapport à la langue ?
Je pense que la frontière de la langue, oui, elle existe, mais pour moi, je pense directement au visa et à la limitation de mouvement qui est imposée à certains pays. Les visas, c'est un délire, et en plus, ça ne date pas d'il y a si longtemps que ça. Pour moi, ma famille, elle a toujours eu la possibilité de voyager. De mes arrière-grands-parents à mes parents, il y a toujours eu du mouvement entre le Maroc, la France, la Pologne, les Pays-Bas, jusqu'à la fin des années 90. Et moi, maintenant, je suis obligée de faire des demandes de visa à chaque fois que je veux aller quelque part. Et ça veut dire beaucoup de paperasse, beaucoup d'argent, des magouilles de rendez-vous. Et pour moi, du coup, ça revient à un rendez-vous impossible à avoir, des jeux de privilèges, des espaces VIP, des longs temps d'attente, des tonnes de papiers à trier. On en vient même des fois à me demander si je suis encore en vie.
Ah ouais.
Des tonnes d'appels, des rendez-vous à la police, des gros dossiers et énormément de temps et d'argent, simplement pour venir dépenser mon argent ici.
Et toi, Joyce, est-ce que c'est concret pour toi, une frontière ?
Moi, j'ai une vision moins concrète de la frontière parce que dans ma vie, je n'ai pas été confrontée aux frontières entre les pays comme toi, Imen. Moi, c'est le théâtre qui m'a permis de franchir des barrières que je m'étais construite. Le théâtre m'a aidé à exprimer ce que je pense, qui je suis, ce que je veux, pour nouer des fils, pour créer des liens avec le monde qui m'entoure. Il y a un metteur en scène belge, Denis Mukwege, qui dit « Faire théâtre, c'est abolir les frontières mentales ». Et je trouve ça très juste.
On finit avec toi, Maëlie. Qu'est-ce que ça t'évoque ?
Pour moi, frontière rime d'abord avec voyage. L'idée qu'il y a un autre côté, d'autres cultures, d'autres mondes. C'est quelque chose que j'ai envie de franchir. Mais en y repensant, ces cultures existeraient même sans frontières. Alors je dirais que la frontière freine plus qu'elle ne protège. Parce qu'elle est injuste, parce que tous les passeports n'ont pas la même valeur.
Alors moi, personnellement, je trouve qu'il y a des frontières partout, même sans quitter notre pays, les frontières de l'argent, de la famille, de l'école où l'on grandit. On habite le même territoire, mais tous ces critères décident qui on croise, avec qui on discute, avec qui on va boire un verre. Rien qu'ici, au Festival d'Avignon, entre le in et le off, il y a des murs invisibles, des murs financiers symboliques. On est tous là pour le théâtre, oui, mais on reste à distance et c'est dommage. En tout cas, merci les amis. On voit que le mot frontière a 1000 définitions. On va tout de suite recevoir nos invités pour en parler avec eux.
À la jeunesse! À la jeunesse!
Les migrants.
Nous sommes toujours au cloître Saint-Louis. On accueille sur notre plateau Milo Rao et Kubra Academy. Bonjour.
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 On a... Vous pouvez... c'est bon, ok. On a eu un petit peu de retard, pas de problème. C'est à toi, Joyce.
Bonjour Milo Rao, vous êtes dramaturge et metteur en scène suisse. Vous avez créé votre compagnie IIPM, l'International Institute for Political Murder, en 2007. Vous êtes aussi directeur du Festival de théâtre de Vienne. Depuis une quinzaine d'années, vous avez fait des mises en scène en Suisse, mais aussi en Allemagne, en France, au Congo, en Roumanie, au Brésil et en Belgique.
Milo Rao, vous voyagez beaucoup. Comme si pour vous, il n'y avait pas de frontières. Vous travaillez en plusieurs langues avec des comédiens et des collaborateurs de nombreuses nationalités. Et vous vous emparez dans vos spectacles et dans vos films de problématiques liées à différentes réalités et des contextes politiques différents.
Kubra Academy, bonjour. Vous êtes une artiste peintre, plasticienne et performeuse afghane. Vous avez étudié les beaux-arts à l'université de Kaboul. À la suite d'une performance dénonçant les oppressions vis-à-vis des femmes en Afghanistan, vous avez reçu des menaces de mort qui vous ont contraint à quitter votre pays.
Tout au long de votre carrière, vous avez créé des œuvres sur la liberté du corps, en particulier le corps féminin. Vous cherchez à mettre en scène des corps de femmes libres. En 2022, vous réalisez l'affiche du Festival d'Avignon. Et en 2024, vous publiez votre premier livre, La fille et le dragon, dragon qui représente les systèmes d'oppression.
Vous êtes aujourd'hui à Avignon pour présenter un dispositif visuel et sonore sous forme de huis clos qui suggère la fragilité des femmes en Afghanistan et nous rappelle la vitesse à laquelle les libertés fondamentales peuvent s'effondrer. Bien au-delà des frontières de ce pays. Merci d'être là avec nous aujourd'hui.
J'ai envie de rentrer avec vous directement dans le vif du sujet. Vous avez entendu ce que pour nous le terme de frontière peut signifier. Alors en quelques phrases, qu'est-ce qu'il évoque pour vous ?
Tout de suite, quand vous étiez en train de la définir, je crois que pour moi, ça me rappelait une actualité très grave qui se passe en frontière entre Iran et Afghanistan. L'Iran est la plus grande déportation forcée. Elle a commencé il y a quelques jours. Plus de 450 personnes, plus de 6000 enfants sans leurs parents, juste prenés dans les rues et là, juste laissés aux frontières en Afghanistan. Tant qu'on voit à quel dans ce pays et là, qu'est-ce qui se passe dans ce pays et on parle pas beaucoup moins dans les actualités, malheureusement. On l'a laissé oublier. Qu'est-ce qui se passe en Afghanistan pour les femmes, pour les minoritaires et aussi pour les enfants filles et garçons. Donc, ouais, tout de suite, ça me rappelait cette frontière, les choses qui se passent par aux frontières. Les choses graves, les choses les plus inhumaines, les choses le plus dur à même imaginer entendre. Donc,
est-ce que pour vous c'est une c'est l'une des frontières les plus violentes ou il y en a une qui est tout aussi violente que celle-ci?
Certainement, il y a d'autres. Par exemple, tout autour de Gaza, mais pas Gaza au Congo, Soudan, et il y a beaucoup d'autres pays.
Et vous, Milo Rao, quand on vous dit frontière, vous pensez à quoi ?
Il y a évidemment ça, ce que tu as dit, que je crois que la vérité des régimes se montre dans le régime des frontières. Alors, je peux vous donner beaucoup d'exemples. L'Union européenne, la frontière de l'extérieur, où meurent de milliers, des milliers, des milliers de personnes dans la Méditerranée. C'est incroyable, c'est presque une sorte de génocide accepté, légalisé. Mais je peux vous donner un autre exemple aussi. Vous avez dit que je travaille au Festival de Vienne. Alors, c'est Europe de l'Est. Juste à l'ancienne frontière, vous savez, vers la région soviétique à l'époque. Et je me rappelle l'année dernière, j'ai parlé ici dans la cour dans un autre débat. Il y a un collègue à moi qui était le directeur du Théâtre National qui a été viré par le nouveau régime extrême droite. Et Vienne est à 50 km de cette autre ville, dans le même aéroport. Mais parce qu'il y a une frontière, personne ne réagit. Parce qu'on dit, ça c'est dans un autre pays, ça ne nous concerne pas. Et je trouve ça vraiment intéressant comment on reste encore dans cette logique. Et quand tu as dit les frontières du Congo, je me rappelle que quand je travaillais au Congo, tu traverses, tu viens du Rwanda, qui est un pays ultra organisé. Et par exemple, à Bukavu, à Goma, tu vas traverser la frontière et tu entres à 50 mètres, un monde complètement différent. Alors je crois que notre vie est vraiment réglementée profondément par les frontières dans les territoires, mais aussi dans notre esprit.
Dans la tête. Du coup, pour vous, les frontières, elles sont les plus brutales, c'est la frontière physique, géopolitique ou sociale? Ou mentale?
Waouh, ça c'est une question, je crois, pour toute une vie. et je ne crois pas que moi, je suis la bonne personne de répondre. Évidemment, la plus brutale, c'est la frontière physique. C'est quelque chose qui, vraiment, il y a des gens qui meurent dans ce moment, quand on parle, à cause des frontières. Mais évidemment, les frontières de classe, ou les frontières de langue, ou les frontières de... Je ne sais pas. Les frontières dans le temps aussi, c'est quelque chose qui nous... Par exemple, on détruit le futur d'autres personnes parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'il y a une continuité là-dedans. C'est comme quelque chose qui est séparé de nous, mais ce n'est pas vrai, en fait. Et je trouve ça... Oui, la frontière entre les genres, la frontière entre... Il y a si je commence à réfléchir sur ça, c'est un sujet incroyable.
Il n'y a aucun souci.
Laïla Slimani est écrivaine et journaliste franco-marocaine. Elle était cette semaine au festival pour la lecture de son texte « Assaut contre la frontière ». Avec l'équipe, on est allé la rencontrer pour lui poser la même question.
Ça va ? Oui, ça va bien. Alors, on y va.
On va poser deux petites questions.
Ouais, bien sûr.
Quand on vous dit frontière, qu'est-ce que ça vous évoque principalement ?
Ça m'évoque la séparation, ça m'évoque la rupture, la déchirure, mais ça m'évoque aussi l'attirance pour l'étrangeté, pour la différence, donc un sentiment ambigu.
Et pour vous, dans le monde, plus globalement, quelle est la frontière la plus violente ?
Les frontières les plus violentes, je pense que c'est celles qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. C'est les frontières qu'on se construit au fur et à mesure du fait de notre histoire, de notre identité, des classes sociales, du rapport parfois idéologique qu'on a avec notre identité. Le plus difficile, c'est sans doute de briser les frontières qu'on a en soi.
Comment est-ce qu'on pourrait briser ces frontières-là mentales ? Est-ce que c'est quelque chose qui est purement sociétal ? Ou est-ce qu'on a un travail aussi individuellement à faire ?
Moi, je pense que la meilleure manière, c'est l'empathie, c'est la tendresse, c'est de regarder l'autre en comprenant à quel point l'autre, c'est déjà soi, et à quel point nous-mêmes, on abrite déjà des autres en nous, et qu'en réalité, du coup, cette frontière, elle devient poreuse, elle devient étanche, et puis elle se met à disparaître, parce qu'on se rend compte qu'entre l'autre et soi, en fait, des frontières, il n'y en a pas.
Est-ce que vous pensez que les frontières... Est-ce qu'on est sa propre frontière ? Ou est-ce qu'elle dit ça dans un contexte plus privilégié parce qu'elle vit en France ?
Dans le sens aussi de se créer des limites, par exemple, qui peuvent nous empêcher ou ne pas nous laisser arriver à quelque chose, par exemple.
Oui, j'ai senti ça à peu près quand vous expliquiez pour la deuxième fois. Effectivement, je crois que pour moi, personnellement, c'est plutôt définir tout ce genre de limites imposées. Ça peut être, mais c'est dans mon cas, c'est plutôt ce que, par mon expérience, je dis plus personnellement, c'est plutôt la religion qui définit les frontières, d'abord entre filles et garçons, mais cette ligne là, c'est très, comment je peux dire, c'est très conséquent dans la vie de même les garçons et les filles, dans toute la société. Et ça continue, ça plonge dans toute la vie des personnes. Et ça, c'est aussi, ça devient autant visible dans les sociétés. Qu'on peut avoir tant de degrés de sexisme. Et c'est imposé plutôt que nous, on peut créer. Oui, nous-mêmes. Je crois qu'au temps dedans, personne, on est libre. Mais on est imposé au fur et à mesure. Mm-hmm. Dès la naissance, en effet. Ça commence dès la naissance.
Oui.
Mais ça devient imposé de plus en plus. Donc, c'est... Et après, la question, c'est de se libérer ou penser ou de définir ça. Je crois que ça passe et toute autre étape dans la vie de chacune.
Et moi, je voudrais vous poser d'ailleurs en relation avec ce que vous dites de ces frontières qui sont imposées. On a aussi des frontières qu'on peut nous choisir. Et comme on a ces normes-là sociétales qui imposent des frontières mentales, la question, ce serait comment est-ce qu'on arrive à se dégager de ces frontières, de se soulever, et comment on peut trouver une solution pour en sortir nous-mêmes, parce que des fois, c'est très difficile déjà de se rendre compte que cette frontière existe. Et donc, c'est la question que je vous pose. Comment on fait pour s'en sortir et s'en dégager ?
J'essaye de répondre encore plus par ma poids de vue personnel. Et,
oui, oui, oui.
C'est aussi, je crois que même sans savoir, quelque part on fait, on réagit avec désobéissance civique, mais pas que dans la société, on dort, mais ça commence à l'intérieur, ou même en privé. Du oui. coup, sans savoir, on a chacune nous-mêmes, dedans nous, on a ça. Désobéir de nous-mêmes, même briser toutes ces frontières et toutes ces lignes. Je crois qu'on fait ça. Et c'est pour ça que je crois dans l'art, il devient plus précis qu'on peut avoir cet espace de questionnement, définir je crois que c'est une étape de définir les frontières par nous-mêmes, c'est une étape de reconnaître. Et ça, c'est nous. Je crois que chacune, dans sa manière, on pense et on fait ça.
Donc pour vous, c'est on ressent en fait quand quelque chose n'est pas normal et on agit, on se soulève par rapport à cette frontière-là.
Oui, c'est comme. Je donne par exemple l'exemple dans mon pays, en Afghanistan, les filles ne sont pas autorisées à aller à l'école, par exemple. Mais malgré que c'est un pays très, très. À part cette loi imposée par les terroristes, groupes de terroristes talibans dans ce pays, mais les gens normaux, comme moi par exemple, il y a beaucoup qui désobéirent. Et il y a beaucoup d'écoles clandestines qui se créent très naturellement. Mais vous voyez, cette désobéissance, ça existe aussi chez nous, chez quelqu'un, chez individu, dans une manière très naturelle. On a ça et on la réagit dans les degrés différents. Ils réactent, ou je n'ai pas dit ici, ils désobéirent, avec des degrés différents, en grandissant. Donc
c'est une très bonne manière de briser ses frontières.
Ça arrive chez tout le monde.
Oui, oui, oui.
C'est chez tout le monde.
On le sent tous. Ouais.
Ouais.
Milo, Rao, vous qui venez de Suisse, un pays beaucoup plus stable politiquement et qui travaillez dans le monde entier, comment vous vivez les frontières ?
Si je peux, je voulais ajouter quelque chose
à
ce qu'elle vient de dire. Après, je vais. Et évidemment, la Suisse est beaucoup plus stable que presque tous les autres pays, je crois. Et oui, on peut parler de ça très longuement. Mais moi, en fait, j'ai dû réfléchir sur un projet qu'on est en train de faire, le procès Pellico. Et là, on s'est demandé qu'il y a eu des 50 hommes qu'on a pris qui ont violé Gisèle Pellico. Il y a eu un seul qui a dit non, et les autres viennent de toutes les classes, en fait, viennent de tous les milieux, de toutes les âges. Il y a des pères, il y a même un homosexuel, il y a vraiment des personnes très différentes, mais il y a une seule personne qui a eu le courage de dire non à ce moment-là. Et je dis le courage, en fait. Et il y a un plaidoyer d'un avocat qui m'a très impressionné, qui a dit, sociologiquement, on ne peut rien dire, c'est tous des hommes. Alors on peut faire un jugement du genre, mais ils sont tellement différents. Il y a ceux qui ont eu des viols dans leur jeunesse, d'autres pas du tout. Alors il n'y a pas une explication sociologique, psychologique. Il y a une seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on peut dire non. Et c'est la seule chose. On peut agir d'une façon, on peut décider de désobéir en fait au patriarcat dans ce cas, à cette situation-là, et de sortir en fait de cette histoire morbide qui se montre de tous les niveaux en fait. Maintenant, en ce qui concerne les frontières comme Suisse, je crois que quand tu regardes les passeports, il y a, je crois, le passeport, je ne me rappelle pas, il y a le passeport allemand, le passeport belge, le passeport... Non, le passeport suisse est peut-être au septième niveau du passeport qui te donne le plus de possibilités de voyager. Et après, tu descends, à la fin, tu arrives au Congo, etc. Tu arrives en Irak, tu arrives à des pays où c'est impossible de sortir. C'est impossible de sortir. Alors, il n'y a pas, sur ces niveaux-là, il y a des privilèges que tu peux vraiment avoir sur la place où tu es, sur une échelle, en fait. Et j'ai toujours compris ça comme une responsabilité de tisser des liens avec des endroits avec lesquels, par exemple, on est lié économiquement. Par exemple, toute la richesse de la Suisse repose sur le fait que nous, on est le plus grand marché des raw materials, des minerais, qui viennent du Congo, qui prennent leur valeur en Suisse. Alors j'ai senti la nécessité de tisser des liens avec la société civile de là, peut-être de changer les lois, d'essayer d'avoir une société civile, disons, globale, ou d'aider à la construire ensemble avec plein d'acteurs. Et c'est une possibilité que j'ai comme Suisse, parce que je peux voyager au Congo, mais pour un Congolais, c'est, en fait, on le fait aujourd'hui, mais c'est difficile quand même de voyager, à mon avis.
Est-ce que, justement, c'est cette possibilité de voyager, cette détermination que vous avez qui a fait que vous avez pu communiquer avec le monde qui vous entoure, c'est-à-dire il y a quand même cette barrière de langue, et comment vous avez su communiquer, parler de vos convictions avec les personnes avec qui vous avez travaillé?
Par exemple, cet après-midi, on a fait une projection de film qu'on a fait ensemble avec l'UNESCO ici dans le festival qu'on a projeté avec l'Université des Beaux-Arts à Mossoul, en Irak du Nord. Et évidemment, quand on travaille là, on travaille avec des professeurs, des spécialistes, des étudiants, etc., de la ville, et on apporte peut-être on vient avec un petit groupe de personnes, on se réunit, et pendant des années, je crois que c'est très important, c'est la durée. Alors moi, j'ai 2-3 espaces, c'est en fait l'Irak, c'est le Congo, et c'était la Russie avant que j'ai perdu mon visa, en fait, et que je ne peux plus entrer dans le pays, qui m'ont intéressé, et où j'ai tissé sur 15 ans, 20 ans, des relais de pour s'influencer, en fait, partiellement les uns les autres.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller travailler à l'international et de traiter des problématiques liées à différents contextes et à différents pays?
Je crois que, en fait, parce qu'on a parlé de la Suisse a développé un bon système qu'un Suisse peut voyager partout, mais personne ne peut entrer en Suisse, non? Et c'est en fait un sujet assez intéressant. Je crois que le pays suisse est le pays avec la plus haute criminalité économique du monde, et sur ça que la richesse de la Suisse existe, en fait. Il n'y a pas des minerais en Suisse, il n'y a pas une industrie en Suisse, il y a juste le terrorisme, le fromage et la criminalité économique.
Il les montre.
Et alors, c'est pour ça que je dis, en fait, on est lié. Moi, j'ai grandi avec les richesses du Congo. J'ai grandi avec les richesses de Mossoul. Mossoul était tellement détruit parce qu'il y a la plus grande quantité de pétrole là. Et alors, ça m'a intéressé de comprendre si, comme société, je ne sais pas si on peut essayer d'avoir des solidarités et de comprendre quelque chose ensemble, d'introduire même des lois, etc., pour changer lentement ce système. Et on est en train de le faire, je crois, sur différents niveaux. On est en train de le faire, on est en train de se solidariser, et c'est toujours une solidarité qui doit, ou une responsabilité, qui, un privilège apporte toujours une responsabilité, je crois. Et peut-être c'est là la source de où la possibilité de voyager apporte une responsabilité de le faire, en fait. Je ne dis pas qu'on doit le faire, mais je crois, si on parle des problèmes politiques qu'on gère On ne peut pas juste dire, OK, ça c'est un autre pays. J'ai pris l'exemple de l'Autriche et de la Slovaquie, on a le même aéroport, mais on dit, non, mais ça ne nous intéresse pas. Mmh. En fait, ça ne va pas, ça ne donne pas une logique, non ?
Ouais. C'est aussi important de le faire parce que ça offre de nouvelles perspectives aussi et des connaissances sur ce qui se passe, parce que si on reste enfermé...
Et peut-être pour ajouter une toute dernière petite pensée, on vit dans un espace médiatique globalisé et on a toujours l'impression qu'on sait tout. Et quand tu arrives, par exemple au Congo, tu arrives, je ne sais pas, en Russie, etc., tu vas comprendre très vite que tu es au Gaza, tu vas comprendre très vite que tu n'as rien su, rien compris, que tu n'as pas eu les informations et que les choses sont profondément différentes que comme on a pensé à travers les médias.
Oui, c'est bien vrai.
On va maintenant écouter la chronique de ma chère amie Kaoutar. Elle va nous parler de la différence entre la réalité et l'imaginaire des frontières. Kaoutar, on t'écoute.
À la jeunesse, les micros !
Les micros.
Les frontières, ça évoque beaucoup, beaucoup de questions.
Eh, vous allez où ? Vous logez où ? Vous allez faire quoi ? Vous avez votre billet de retour ?
Petite, je regardais un épisode de la série Dora l'exploratrice, un épisode que j'aimais beaucoup. Du coup, comme tous les enfants, je le regardais en boucle. Dora faisait le tour du monde en un seul épisode. Elle apprenait comment on dit bonjour dans toutes les langues, elle goûtait les plats de chaque pays... Elle distribuait des bracelets d'amitié à tout le monde.
Prendre ces bracelets aujourd'hui même! Je suis sûre qu'ensemble nous y arriverons. Mais j'ai besoin de ton aide. Veux-tu nous aider à rapporter ces bracelets à nos amis du monde entier?
Oui! Qu'est-ce que j'avais envie d'avoir un bracelet moi aussi. Mais bon, dans cet épisode, Dora ne passe jamais par le Maroc. Elle traverse les océans, les montagnes et les rivières. Je me demande encore comment elle a réussi à tout faire en une journée. On la voit sur un bateau, sur un scooter et sur un éléphant. En une journée, hein. Bon, c'est décidé, je vais faire comme Dora. Goûter les plats de plein de pays, dire bonjour dans plein de langues. Je vais me faire plein de nouveaux amis. Et surtout, je vais distribuer des bracelets d'amitié. Pour commencer, j'ai besoin de quoi ? Dora, elle a un sac à dos et une carte du monde. C'est tout. Son voyage commence à Paris. Super, je parle déjà français.
Ah bah non madame, vous pouvez pas prendre l'avion comme ça. Il y a des procédures quand même.
Passeport de moins de 10 ans, expirant plus de 3 mois après la date à laquelle vous avez prévu de quitter l'espace Schengen, comportant 2 pages vierges, preuve de résidence légale au Maroc, preuve d'installation au Maroc variant selon votre statut, salarié, étudiant, retraité, etc. et précisée lors de la demande visa en ligne.
Il faut aussi formulaire de demande de visa rempli et signé, récépissé d'enregistrement de la demande de visa, 2 photos d'identité récentes et aux normes de l'Union européenne.
Mais elle a fait tout ça, Dora ?
Justificatif de l'objet du voyage, pré-réservation du billet aller-retour d'avion, d'autobus ou de bateau ou confirmation de réservation d'un voyage.
Justificatif
d'hébergement en France pour la durée du séjour.
Je sais pas ce que ça veut dire.
Réservation d'hôtel, attestation d'accueil. Justificatif de ressources financières prouvant que vous êtes solvable toute la durée de votre séjour, originaux des relevés bancaires des 3 derniers mois ou des 3 derniers bulletins de paie.
Justificatif de pension, etc., 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 etc.
Attestation d'assurance médicale de voyage obligatoire. Justificatif, 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 justificatif. Ah oui, et j'ai oublié. Le prix d'un visa en France depuis le Maroc est de 80 € pour un visa court séjour et 99 € pour un visa long séjour. Et c'est très important, ces droits de visa ne sont pas remboursés en cas de refus de visa.
Mais Dora, ça coûte trop cher d'aller distribuer des bracelets d'amitié. Bnax, tant pis pour Dora, tant pis pour les bracelets.
Making Waves Avignon présente. Merci à toi, Kaoutar, et à Jade d'avoir prêté ta belle voix. On est toujours au Cloître Saint-Louis, en compagnie de Kubra Academy et Milo Rao, sur le plateau Noan, Joyce, Maëlie et Iman. On vient de parler frontières, visibles et invisibles, de langues qu'on perd et de lieux qu'on ne retrouve pas. Qu'est-ce que l'art peut faire face à ces frontières ? Est-ce une façon de résister, de témoigner, là où la parole politique échoue ? On ouvre maintenant une deuxième partie, art et activisme. Quand le corps devient manifeste, quand la fiction devient refuge, est-ce qu'en tant qu'artiste, on détient un pouvoir particulier ?
Koubra, Mélo, vous êtes deux artistes reconnus, deux militants politiques. Est-ce que l'art, pour vous, la performance, la peinture, le cinéma peuvent casser des murs pour faire tomber les frontières, faire tomber ce qui nous sépare ou ce qui nous enferme, Mélo ?
Je dirais oui. dans mon expérience, il y a, je crois, dans les cercles activistes, mais aussi d'art, il y a, disons, il y a une sorte de réseau international, global, déjà un peu construit dans les dernières générations. Alors on peut vraiment, par exemple, quand on a fait la petite annonce hier au front du Palais de Pape, c'était très très simple de se réunir. Alors il y a là un réseau qui existe en même temps sur un niveau très pratique, par exemple l'école de film qu'on a fait avec l'UNESCO à Mossoul, etc. Alors sur un niveau assez petit, on peut faire beaucoup. Dans ces projets-là, alors je crois que c'est possible. Après, il y a un niveau symbolique, alors on peut montrer des choses qui peut-être sont impensables, on peut faire des projets qui montrent une alternative à la façon dans laquelle on vit. Alors il y a un espace, il y a une importance des chansons qui peuvent changer, il y a des photographies qui ont arrêté des guerres, il y a des reportages, il y a des pièces d'art qui ont vraiment changé le cours de l'histoire. Alors je crois qu'il faut rester optimiste quand même dans cette chose-là.
D'accord. Et vous, Koubra, vous pensez que l'art peut briser des frontières ?
Je crois que la seule, c'est l'art qui brise toutes ces frontières et même challenge toutes ces frontières. L'art, comme toutes les formes, littérature, cinéma, théâtre, l'art visuel, tout. Je dis ça pas parce que moi-même... Je viens d'Afghanistan et par rapport à l'histoire d'Afghanistan contemporain, des 50 dernières années surtout, c'est ce que les gens ils savent, ce que j'entends d'ici, les gens qui... Même quand je dis je viens d'Afghanistan, les gens disent « Ah non, c'est pas possible ». Et personne ne peut dire que je viens d'Afghanistan. Et apparemment, je n'ai l'air pas quelqu'un qui vient d'Afghanistan. Ça peut avoir plein de raisons. Mais c'est aussi que les gens ici sont bouffés des informations, des visuels, des images que les médias ils donnent. Et donc, s'il y a ce manque de cet échange, pas parce qu'à travers toutes ces vagues et phases de guerre qu'on a eu en Afghanistan, qui ont détruit notre culture, beaucoup de choses, beaucoup de notre valeur aussi. Mais l'art, ils ne le connaissent pas, par exemple. Et c'était aussi, j'ai juste dit un exemple de mon... quand je débouche, je suis arrivée en France, mon travail Performance Armour était vu beaucoup dans le monde. Et beaucoup de monde la connaissait. Dès qu'on l'a vu, il dit qu'il y a un des feedbacks sur ce travail, ça a été aussi que... c'est une image très simple, c'est une performance. Est-ce que performance existe chez vous ? Et moi, je dis que moi, je le pratiquais chez moi. Vous voyez ? Et aussi, cet étonnement, ça a été aussi quelque chose que moi, je ne savais pas, que je pouvais être posé cette question. Et aussi, qu'il y a dans l'art, ce que moi, j'ai appris que les gens ici, ils pensent que mon travail, il est très compréhensible pour le monde. Et pour moi, c'était tout à fait normal qu'elle soit... C'est le langage artistique. Et cet étonnement était aussi, ça dit, ce n'est pas que l'information était filtrée par un filtre de guerre et de médias. Mais aussi, en Afghanistan, par exemple, l'artiste sont jeunes, l'artiste contemporain afghanistan, ils sont jeunes, ils sont, par exemple, ce que nous, cette génération qu'on le connaît, qu'on connaît une autre, c'est qu'il y a tout autre monde, toute autre culture qui existe en Afghanistan, évidemment, et là, et à travers l'art, on la connecte très facilement que moi, d'autres... Ah, je voulais dire que moi, j'étais étonnée que les gens soient étonnés que mon travail, mon art artistique est compréhensible pour tout le monde. Pour moi, l'art, c'est ça. On n'a pas besoin d'avoir un langage.
Oui.
Langage est là déjà. C'est un langage universel qui comment je veux dire? I have to say it in English. Sorry.
Yeah.
It comes from the heart and it goes to the heart. We don't need to have language. We don't need to know English to talk. The language of imperialism to talk about it. Sorry, I talk in this language, but because I have more control on it. But I would say that I'm so happy. I'm artist. What I communicate, what I create, people feel it by heart.
Mm-hmm.
So we don't need, I mean, it already, art is a manifestation standing in front of these all brutal geopolitical frontières qui sont dessinées de plus en plus, beaucoup plus fortes even before.
Je voudrais vous proposer maintenant un peu de musique. On a été rejoint sur le plateau par Ibrahim, un joueur de kora, et Imen, c'est toi qui nous en parles.
Oui, alors merci Léa. Moi, il y a quelques jours, j'ai rencontré Ibrahim, qui est là, pas loin du cloître Saint-Louis, et c'est un homme qui utilise sa musique pour partager ses valeurs, sa culture, et nous unir par la douceur. Et il nous rejoint aujourd'hui pour une petite pause musicale.
Je vais vous interpréter le morceau des Banidé, qui signifie chez nous il faut rester soi-même et être fier d'être soi-même, même si très souvent on est assez critiqué parce qu'on est comme ça, on n'est pas comme ça. Souvent les gens ils veulent faire de nous ce qu'eux ils veulent et ils oublient souvent que nous aussi on veut être nous-mêmes aussi. Donc c'est une mélodie que je tiens vraiment parce que ça parle que des valeurs nobles. Merci beaucoup. Thank you. Merci.
Merci beaucoup, Ibrahim. Alors, moi, j'ai quelques petites questions pour toi, si tu veux bien répondre.
Oui, je veux bien.
Oui, dis-moi, pour toi...
J'ai est-ce pas le choix. Je prends bien.
Est-ce que pour toi, est-ce qu'il y a des frontières qui se brisent quand tu joues de la musique pour les gens?
Il y a des gens, non, malheureusement.
Pardon?
Ah oui.
Oui, oui.
Des fois même, il y en a qui peuvent même dévisager, te regarder autrement avec un instrument ancien. Mais souvent, c'est normal, il y a des cons, je suis désolé, c'est comme ça. C'est la vie. Il y en a ici, devant un tableau qui est magnifique, il y en a même l'art, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ça ne leur dit rien.
Et donc, pour toi, regard des gens, ça peut être une frontière?
Non, 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 au contraire, oui, c'est des gens, ils me motivent même. Ils me motivent comme quoi on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes projets. Et j'ai tendance à dire ça, que la vie, chacun choisit son niveau. C'est le niveau zéro jusqu'à l'infini. Si tu veux être 5 sur l'infini ou 10 sur l'infini, ou tu choisis. Mais on nous a donné la vie pour qu'on puisse s'améliorer tous les jours. Et c'est même pas sûr qu'on puisse y arriver jusqu'à la fin de notre vie. Donc si on ne fait pas l'effort, déjà, c'est peine perdue d'avance. Donc après, chacun fait... Mais c'est vrai, des fois, il y en a qui peuvent nous regarder un peu bizarrement, ou bien genre un peu ringard. Mais après, à côté, il y a beaucoup de gens qui nous encouragent, qui se rendent compte de notre travail, qui nous encouragent vraiment profondément. Un peu, ça fait partie de ma rencontre avec vous.
Merci beaucoup, Ibrahim, pour tes réponses. Merci.
À la jeunesse! À la jeunesse!
Les migrants!
Merci beaucoup, Ibrahim. Hier, samedi 12 juillet, une nouvelle déclaration d'Avignon a été lue en 5 langues sur la place du Palais des Papes, 30 ans après celle de 1995. En 1995, c'était pour dénoncer les massacres de Srebrenica. Aujourd'hui, c'est pour dénoncer le génocide en cours à Gaza. Parmi les signataires, des artistes venus du monde entier, dont vous, Milo Rao. Cette déclaration appelle à la reconnaissance de l'État palestinien, à la suspension de l'accord entre l'Union européenne et Israël, et des sanctions internationales, mais surtout à l'arrêt du silence. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'indifférence qu'il faut combattre, c'est l'étouffement des voix. Arrestations, pressions, exclusions, celles et ceux qui soutiennent la cause palestinienne sont toujours menacés. Et pourtant, l'art résiste et l'art témoigne. Qu'est-ce que ça signifie de créer dans un monde qui s'écroule? Porter une parole quand elle dérange, traverser des frontières quand d'autres meurent à leurs pieds. On écoute tout de suite un extrait de la nouvelle déclaration d'Avignon que notre reporter Clément est allé enregistrer hier.
Nous allons lire la nouvelle déclaration d'Avignon en 5 langues. Nous invitons tous les lieux et toutes les institutions artistiques et culturelles à porter et à diffuser cette déclaration et à prendre ouvertement position en soutien à la Palestine. Gens du spectacle réunis à Avignon, parce qu'un tel festival est aussi celui de la parole publique et des exigences civiques, ne nous résignons en rien à la désertion des démocraties devant le pire, donnons lecture de la déclaration d'Avignon. Ainsi commençait un texte lu en 1995 dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Un texte qui rappelait le nettoyage ethnique en cours en ex-Yougoslavie. 30 ans plus tard, nous, femmes et hommes du spectacle réunis à Avignon, ne nous résignons pas à l'impuissance ni à l'invisibilisation du crime, déclarons notre solidarité avec le peuple palestinien.
لأن هذا المهرجان هو أيضا منصة للخطاب العام والمطالب المدنية
ولأننا لن نستسلم أمام تقاعس الديمقراطيات العالم عن مواجهة أسوأ الفضائع.
Die neue Erklärung von Avignon.
نتلو عليكم نداء أفينيون.
Wir, die Menschen der darstellenden Künste, die in Avignon versammelt sind, weil ein Festival wie dieses auch ein Raum für öffentliche Rede und bürgerliche Verantwortung ist, akzeptieren den Rückzug der Demokratien angesichts des Schlimmsten nicht und präsentieren hiermit die Erklärung von Avignon. So beginnt ein Text, der 1995 in der Cour d'honneur des Papstpalastes verlesen wurde.
Milo Rao, vous étiez là hier soir sur la place du Palais des Papes. Vous avez pris la parole avec d'autres artistes pour lire cette nouvelle déclaration d'Avignon. Pourquoi était-ce important pour vous d'être présent, de signer, de lire ce texte ici dans ce lieu chargé d'histoire et de symboles ?
Il est peut-être important de connaître un peu mon background, d'où je viens, parce que on m'avait invité de lire le texte en anglais et j'ai demandé de le lire en allemand. Ce que vous avez entendu parce que en Allemagne et en Autriche où je travaille, l'utilisation du mot génocide est interdit, le drapeau palestinien est interdit, le pays n'est pas reconnu, et ça a des bonnes raisons et des mauvaises raisons. Des bonnes raisons, c'est évidemment qu'il y a eu l'Holocauste, il y a ce trauma des deux pays d'avoir commis ce crime, les Autrichiens, les Allemands, tuer 6 millions de Juifs. Alors il y a des bonnes raisons pour questionner en fait toute attaque contre l'État d'Israël. Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme dedans, etc., etc. Mais du côté négatif, ça a mené au fait que c'est impossible de par exemple, parler du génocide qui se passe au Gaza. Mm. Et c'est pour ça que pour moi, comme germanophone, c'était important de signer cette lettre, de le lire en allemand pour le faire connaître aussi un peu dans les médias allemands, parce qu'une telle manifestation serait chez nous, à ce moment, difficilement possible. Pour finir sur ça, j'ai été très très touché du nombre des personnes qui étaient là, de l'approche presque, on dirait, non politique, humanitaire, humaniste de tout l'événement. Alors il y avait quelque chose qui était, oui, qui faisait
qui nous
beaucoup, beaucoup de sens, qui réunissait vraiment tous, aussi les Israéliens qui se révoltent contre leur État, contre la politique de leur État, eux aussi. Hein. Je connais plein. Alors c'est pas quelque chose qui est divisé, en fait. Je crois que c'est très clair, et alors il faut le dénoncer.
Oui, c'est bien vrai. Avant de se quitter, j'ai une dernière question pour vous, Kubra et Milo. Une réponse courte, s'il vous plaît. C'est quelles frontières que vous espérez voir disparaître dans 10 ans ? On commence avec vous, Kubra.
No pressure.
Une frontière que vous aimeriez voir disparaître au moins d'ici 10 ans,
qu'elle soit physique ou autre.
Je voulais que les talibans disparaissent.
C'est oui. Une très bonne réponse.
Oui. Les talibans disparaître. Tout de suite, mais...
Des terroristes en général.
Exact, ouais.
Et vous, Milo?
J'espère qu'ils disparaissent toutes les frontières, en fait, entre les pays, entre la fiction et le réel, entre le présent et le futur, entre les genres, parce que vraiment, ça c'est... disons que la moitié des problèmes nous parvient des frontières, par exemple de l'idée absurde qu'il faut prendre position pour Israël ou pour la Palestine, mais il faut prendre position contre la guerre, contre les régimes terroristes.
Oui.
Tu vois, c'est ça.
Oui.
Contre les régimes qui financent les terroristes.
Les régimes qui financent
les impérialistes. Les machines de guerre.
Oui. Merci beaucoup, Kubra. Merci beaucoup, Milo. On a été très heureux de vous recevoir dans notre 4e émission. Kubra, on vous retrouve dans ce festival avec l'installation One Owns Room Inside Kabul. Vous, Milo, on peut retrouver votre spectacle La Lettre en itinérance jusqu'à la fin du festival. Merci beaucoup et à bientôt.
À la jeunesse ! À la jeunesse !
Les migrants.
On est toujours en public ici au cloître Saint-Louis où l'on vient de passer un moment avec deux grands artistes pour penser les frontières autrement. Pour terminer cette émission, on voulait ouvrir sur une autre forme de frontière, celle entre les pays dits du Nord et ceux dits du Sud, entre ceux qui disent vouloir aider et ceux qu'on essaie d'aider. La solidarité internationale est aujourd'hui vivement remise en question. Sous Trump, les États-Unis ont coupé USAID. En France, c'est l'extrême droite qui s'en prend aux aides publiques accordées à d'autres pays. Alors, que veut dire faire solidarité dans un monde fracturé, post-colonial, souvent méfiant ? Pour en parler, nous recevons sur le plateau Mathilde Schneider. Elle est directrice de la communication de l'AFD, l'Agence française de développement. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Bonjour.
Moi j'ai une petite question. En France, l'extrême droite nous rabâche qu'on doit penser d'abord à nous, qu'on ne doit pas aider les autres pays parce qu'on galère déjà à s'occuper des hôpitaux, l'hôpital public est en train de mourir, etc. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre à ces gens-là ?
D'abord, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour cette question hyper claire. Moi, d'une certaine manière, je comprends qu'on tende l'oreille à certains discours de l'extrême droite. Ils sont très très puissants. Pourquoi ? Parce qu'ils misent tout sur la simplification du réel. Si on te demande de choisir entre sauver la vie de ton frère ou d'un pur inconnu à l'autre bout du monde, en fait, tu ne vas pas hésiter très longtemps en réalité. Voilà, je me dis bien sûr il faut penser aux siens, bien sûr il faut s'inquiéter aussi pour ce qui se passe ici en France. Et d'une certaine manière, s'il faut faire des économies, toutes les politiques publiques, qu'elles soient domestiques ou internationales, elles ont leur part à prendre. Maintenant, au-delà des arguments idéologiques et de la morale, les argumentaires de l'extrême droite se fracassent sur le réel, sur au moins un point. Le bien-être des Français, leur santé, tout ça n'est pas lié à ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières. Bien au contraire, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Chine a évidemment un impact sur nos vies. Et on le voit à peu près n'importe où. On se souvient du Covid. On le vit aussi dans le cadre du champ climatique avec des multiplications de catastrophes naturelles. Issu du dérèglement climatique qui nous concerne ici aussi. Bref, on a ce sujet d'interconnexion du monde et je pense que c'est complètement irresponsable de se dire que ce qui se passe ailleurs ne doit pas nous regarder ou nous concerner. Voilà. Peut-être un mot, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que l'AFD, l'Agence française de développement. Et pour comprendre un peu d'où moi je parle, parce que j'arrive avec une voix un peu institutionnelle après un débat magnifique avec des artistes très engagés. Moi, je représente quelque chose d'un peu plus rigide qui est l'institution, mais qui est une institution en fait hyper engagée. L'AFD, c'est la banque internationale, la banque publique internationale de la France. Son rôle, c'est d'investir. Et je dis bien investir et pas aider, on pourra y revenir et je sais que ça fait partie un peu des questions que vous avez, mais d'investir dans des projets de développement durable dans 150 pays à travers le monde pour à la fois améliorer la vie des populations, donc lutter contre les inégalités, lutter contre la pauvreté, d'une part, et deuxième mandat, protéger les biens publics mondiaux, le climat, les océans, la biodiversité, la santé mondiale dont je parlais, qui sont évidemment en fait notre bien commun à tous. On le fait par l'investissement, c'est pas mal, c'est 13 milliards quand même d'euros qui sont investis chaque année dans 4000 projets dans le monde. Donc c'est très concret, c'est protéiforme, c'est du financement d'hôpitaux, de la formation de soignants, c'est des transports propres, c'est des industries culturelles et créatives aussi, on finance ça depuis quelques années aussi à l'AFD. Donc c'est difficile, si vous voulez, de réduire peut-être notre action. Si je devais garder un élément, c'est celui du lien. En fait, ce qu'on fait à travers l'AFD, on construit des projets avec d'autres que nous, on tisse des intérêts mutuels, on tisse des intérêts communs, parce que à la fin, c'est ça qui va nous permettre de vivre ensemble et de nous projeter ensemble dans le futur, de préserver aussi la paix qui aujourd'hui, on le sait, est très très menacée.
La fin du USAID ou de la solidarité internationale, ça a quoi comme conséquence concrète ?
Je reprends mes notes parce qu'il y a des chiffres, en fait. La fin du USAID, donc c'est l'agence américaine d'aide publique au développement, elle a été un choc hyper, hyper brutal, et c'est une catastrophe annoncée, c'est 40 milliards de dollars par an qui ne vont plus être... mis dans des projets, notamment des projets humanitaires, des projets liés à la santé mondiale dans lesquels les États-Unis étaient très très investis. Et donc, il y a une récente étude de Lancet, c'est une revue américaine, qui a essayé d'extrapoler en se demandant mais qu'est-ce que ça va changer. Et leurs conclusions, elles sont sans appel. Elles disent que, en gros, à partir de 2025, c'est 14 millions de personnes qui vont mourir par an supplémentaires, dont 700 000 enfants de moins de 5 ans. Donc, bon, c'est des recherches, etc. Mais c'est basé du travail qui a été fait sur les impacts concrets de USAID ces dernières années. Donc ça, c'est très concret et c'est très c'est assez vertigineux. Après, c'est aussi un signal que le premier pays donateur arrête complètement son aide. C'est un signal aussi important pour les autres pays qui s'étaient lancés dans ces engagements-là, en particulier l'Union européenne, la France, l'Allemagne, qui sont de grands donateurs historiques et qui, eux aussi, sont en train de couper leur budget. La France, pour vous donner un exemple, a perdu en 2025 30% de ses crédits. Bon, très concrètement, c'est beaucoup. Après, pour autant, je ne crois pas qu'on puisse se dire que c'est la fin de la solidarité internationale, pour reprendre les termes de ta question. En fait, je pense que c'est plutôt le début d'une nouvelle manière de penser les rapports entre les États.
J'aurais une petite question pour vous, Mathilde, par rapport à la solidarité internationale. Comment est-ce qu'on fait pour faire solidarité dans une ère post-coloniale sans pour autant avoir une place de dominant ?
C'est une vraie belle question. Comment est-ce qu'on fait quand on est français, quand on est occidental, quand on est à fortiori une ancienne puissance coloniale, pour continuer à converser, continuer à avoir des choses pertinentes à dire et à faire avec des pays qui ont été anciennement colonisés et qui ont le droit aujourd'hui de nous en vouloir de ça? Je crois qu'il y a, il y a une posture d'humilité très claire et qui est à la fois, j'allais dire, une obligation presque éthique, mais qui est aussi, à mon avis, très importante pour nous, les Français, parce qu'une grande, grande partie de la solution, elle se trouve ailleurs, au-delà de nos frontières. Et je pense qu'on a autant à apprendre de l'Inde, du Maroc, de la Tunisie. On en parlait là encore tout à l'heure dans une table ronde là-haut. On a autant à apprendre qu'à donner.
À apprendre.
On a autant à apprendre qu'à apporter, je pense. Okay. C'est cet enjeu-là, cet enjeu de réciprocité qui, à mon avis, doit guider la manière dont on repense complètement l'ordre mondial, parce qu'en fait, c'est quand même de ça dont on se parle. On se parle de solidarité internationale, on se parle aussi en fait, d'un multilatéralisme qui est en train de voler en éclats. L'ONU, vous l'avez vu, qui se pose quand même des questions existentielles, la Banque mondiale aussi. Donc, c'est toutes les institutions internationales qui sont, je pense, en danger de mort si elles ne se réinventent pas. La France a cette chance par rapport à USAID qu'on est une banque. Du coup, le contribuable français ne paye pas nos salaires. On se finance nous-mêmes sur les marchés. Ça nous permet d'avoir de l'impact et de le faire à coût restreint pour les Français et pour le contribuable. Mais il faut quand même qu'on repense totalement la manière dont on pense cet investissement durable, cette aide qui ne doit plus être fondée sur de la charité, mais bien sur de la confiance, en fait. Quand on prête, quand on investit chez l'autre, c'est qu'on a envie de lui faire confiance et de durer dans la relation qu'on a avec
donc
eux.
Donc c'est prêter, c'est pas faire solidarité, c'est pas de la charité.
C'est pas de la charité. Cela dit, je suis très attentive et très... je pense qu'il faut que l'enjeu de solidarité, on le garde. Il y a une différence quand même. On est solidaire de ce qui se passe à Gaza. On est solidaire de ce qui se passe en Ukraine. En revanche, il faut qu'on repense nos modèles économiques. Et dans ce cas, il faut qu'on puisse aussi compenser une forme de don ou de subvention par des prêts qui nous permettent par ailleurs de faire vivre des institutions qui sont aujourd'hui sinon en danger.
Merci beaucoup Mathilde, on arrive à la fin de notre émission. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce que je retiens de cette émission, c'est que les frontières ne sont pas seulement des lignes sur une carte, ce sont aussi des murs dans les esprits, des silences dans les langues. Et elles enferment, mais parfois elles protègent, mais elles séparent toujours. Face à ça, des voix se lèvent. On a entendu celle de Cobra Academy et de Milo Rao, des artistes qui tracent d'autres lignes, celle de la scène, celle du récit et celle du geste artistique. Des lignes qui ne séparent pas, mais relient. Peut-être finalement que la vraie question, c'est quelles frontières sommes-nous prêts à franchir pour voir autrement, entendre autrement et peut-être faire un pas vers l'autre. À demain pour une nouvelle émission de la Jeunesse Les Micros. On parlera d'éducation avec Georges Didier-Berman, Fatia Kelouahashi et Émilie Rousset. Je suis Léa, nous étions à l'antenne avec Joyce, Maëly, Iman et Noan à la chronique Kaotar avec la voix de Jade. Et merci à nos anges gardiens de la technique, Jade et Clément. Bonne soirée à toutes et à tous.
C'était Making Waves Avignon, à la Jeunesse Les Micros.
Une série d'émissions enregistrées en public en juillet 2025.
Lors de la 79e édition du Festival d'Avignon.
Un projet
et une production de Making Waves.
Les Micros.